Je m'appelle Pierre Chrétien et je m'occupe de l'équipe d'Attaque, qui est l'équipe Data Science de Kea.
Vision 2030, grande tendance.
Alors, l'histoire de l'IA, finalement, ça a commencé au moment de la Seconde Guerre mondiale avec Alan Turing, qui a créé la première machine intelligente.
Le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable.
Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs.
Plus récemment, en 1997, Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov.
L'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient
d'être... En 2016, AlphaGo a battu Lee Sedol. Lee Sedol, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde de Go.
Three times, and after doing what it was designed to do, retired from the game.
En 2019, Pluribus a battu plusieurs joueurs professionnels de poker, au No Limit Texas Hold'em. Et dans d'autres domaines, comme la reconnaissance vocale, que ce soit Apple, Google ou Amazon, arrivent à atteindre des niveaux de précision qui sont supérieurs à ceux de l'homme.
Je suis là pour vous aider.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci pour cette intro sur l'histoire de l'IA. Maintenant, peux-tu nous parler de l'IA générative et nous expliquer techniquement comment elle fonctionne ?
L'IA générative, c'est précisément cette nouvelle branche de l'IA qu'on appelle générative parce que sa principale caractéristique, c'est de générer du contenu. L'IA a pris la structure du langage. C'est évidemment un raccourci pour dire qu'on lui a appris à faire trois choses séquentiellement. Première chose, c'est de prédire le prochain mot à partir d'un début de phrase. On lui a appris à faire ça en donnant grand volume de texte pour s'entraîner, donc une partie significative d'Internet et notamment Wikipédia. La deuxième chose, c'est qu'on lui a appris à répondre à une question en construisant sa réponse, en prédisant d'abord le premier mot, puis le deuxième, et ainsi de suite, mot après mot. Enfin, le troisième point, c'est que l'IA a appris ce que nous, les humains, préférons comme réponse. D'un point de vue pertinence, d'un point de vue moral, parmi toutes les réponses qu'elle pourrait générer à une question donnée, elle a appris à privilégier la réponse la plus pertinente.
On doit dire pain au chocolat et non pas chocolatine.
Alors, schématiquement, le processus, c'est que premièrement, les mots de la question sont transformés en nombres, puisqu'une IA ne comprend pas les mots, elle comprend que des nombres. Deuxièmement, des milliards de calculs sont effectués, donc c'est des multiplications de matrices. Et troisièmement, le modèle renvoie la réponse qui est la plus pertinente sur le plan statistique. Finalement, ce qui est marquant et qui fait son impact, c'est qu'elle est capable d'interagir avec l'homme sur deux de ses cinq sens. L'ouïe, puisqu'elle est capable de générer du contenu audio ou vidéo, et la vue, puisqu'elle est capable de générer du texte. Et donc ça ouvre un champ des possibles d'interaction qui est énorme. Alors je m'interromps une seconde pour vous dire que la phrase précédente a été clonée et générée par une IA générative. Bluffant, non ?
Alors finalement, qu'est-ce qui a changé depuis la machine de Turing en 1936 ?
Ce qui a changé, c'est le nombre de calculs qui sont effectués, et donc le volume de données qui peut être processé par ces IA. À la fois sur le plan du hardware, il y a beaucoup plus de composants qui sont beaucoup plus petits, et donc le nombre de calculs qui est possible est bien supérieur. Et sur le plan algorithmique, ce qui a changé, c'est qu'il y a une brique qui s'appelle le Transformer qui est arrivée en 2017, qui est un composant au cœur de ces modèles d'IA générative, qui n'existait bien sûr pas à l'époque de Turing.
Pourquoi il y a eu un énorme engouement autour de l'IA à partir de novembre 2022 ?
Alors effectivement, en novembre 2022, l'IA est arrivée sur le devant de la scène médiatique pour le grand public et c'est dû à ChatGPT, produit développé par une start-up californienne qui s'appelle OpenAI et qui finalement n'est rien d'autre qu'un chatbot, mais avec qui il est bien plus agréable de discuter que tous les autres chatbots avant lui. Pourquoi c'est plus agréable de discuter ? Parce que finalement, il comprend mieux la structure du langage et donc il est capable de comprendre ce qu'on lui demande et de nous répondre de façon plus pertinente.
Alors, y a-t-il des domaines dans lesquels l'IA ne peut rien faire ?
Bon, déjà, il faut rappeler qu'aujourd'hui, on en est encore au début de l'IA. Comme toutes les ruptures technologiques, celle-ci suit une courbe en S. Et donc, au début, la maturité monte tout doucement, puis d'un coup, ça commence à accélérer. On en est à peu près là, d'après les plus grands experts mondiaux. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de choses que l'IA ne fait pas ou fait mal. L'IA générative en tant que telle, si on la prend de façon isolée, il y a beaucoup de choses qu'elle fait très mal. Par exemple, elle n'a pas d'intelligence symbolique. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas réellement au sens où on l'entendrait. Par exemple, pour elle, le chiffre 2 n'a pas de signification conceptuelle. Elle hallucine parfois. Elle mélange les informations, par exemple, entre les informations qui sont présentes dans sa mémoire et les informations qu'on lui donne dans la question, et elle répond en mélangeant les deux. Ou alors elle invente. En revanche, si on se projette sur le fait que l'IA générative est un composant parmi une IA un peu plus globale, une brique d'un Lego, l'IA générative peut faire l'interface avec les humains, comme on l'a vu, et d'autres composants qui sont peut-être comparables à ceux utilisés aux échecs ou dans le jeu de Go ou au poker, seront responsables de la partie rationnelle, déductive, rigoureuse, et ne feront pas les erreurs que ferait l'IA générative. On est donc à un moment du développement de cette technologie où les briques se développent les unes après les autres. L'IA, dans son ensemble, va suivre une courbe de progrès difficilement prédictible, tellement elle pourrait être rapide.
Enfin, pourquoi toi, personnellement, tu aimes ce sujet ?
Je pense qu'il y a une partie qui relève de la curiosité. Finalement, en essayant de comprendre comment fonctionnent ces modèles d'IA, on essaie de comprendre par effet miroir comment l'homme fonctionne. Je suis assez fasciné par les perspectives possibles. C'est difficile d'imaginer une limite à ce que fera l'IA dans suffisamment de temps, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et donc, comment sera le monde ? Puisque ça peut être un peu vertigineux d'imaginer des machines capables de faire toutes ces choses qui sont aujourd'hui faites par des humains. Donc, c'est à l'intersection de la curiosité scientifique et plus largement d'une curiosité sur ce de quoi demain sera fait.
Et nous, dans notre entreprise ? Quelle est notre approche stratégique pour l'IA ? Comment impliquer nos équipes ? Et par quoi commencer ? Quelle approche utiliser pour communiquer, expliquer et potentiellement transformer nos modèles ?